VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Nigeria, le groupe islamiste Boko Haram a envoyé une preuve de vie de ses otages 2 ans après l'enlèvement à Chibok de 276 lycéennes. Un rapt commémoré aujourd'hui par des prières et des manifestations à travers tout le pays. C'est aussi l'occasion pour les activistes de demander au gouvernement nigérian d'intensifier les recherches afin de retrouver les captives. Joël Oluwaseum, un résident d'Abuja, nous situe sur l'état d'esprit des Nigérians au moment où la population marque cet anniversaire douloureux.
Il y a d'autres qui disent que le gouvernement, un jour à un autre, va ramener les filles, mais il y a d'autres qui n'y pensent plus. Alors, si nous voulons voir du côté des parents de ces filles enlevées, c'est vrai que c'est un coup dur pour ces parents, mais cette nouvelle administration veut toujours leur donner une lueur d'espoir parce que l'administration essaie de leur dire que le gouvernement est en train de travailler très dur pour ramener les filles. C'est vrai, c'est évident que les terroristes ont ces derniers jours subi beaucoup de défaites de la part des militaires nigériens. Mais alors, on se demande, avec ce système militaire sur le terrain, pour le moment, on attend toujours voir ce qui va se passer.
Joël Oluwaseum à Abuja, au Nigeria. Au Tchad voisin, 4 dirigeants de mouvements de la société civile tchadienne arrêtés avant l'élection présidentielle du dimanche dernier ont été condamnés ce jeudi à N'Djamena à 4 mois de prison avec sursis. Mahamat Nour Ahmed Ibedou, Younous Mahadjir, Nadjo Kaina Palmer et Céline Normadji ont été libérés dans la journée. Le cas d'un 5e leader de la société civile arrêté plusieurs jours après les autres fera l'objet d'une audience ultérieure. Les 4 opposants étaient poursuivis pour provocation à un attroupement non armé, tentative d'atteinte à l'ordre public et opposition à l'exercice d'une autorité légitime, après avoir appelé à manifester contre la candidature du président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 26 ans à un 5e mandat. Mais un seul chef d'accusation, attroupement non armé, a été finalement retenu par le tribunal. Par ailleurs, les Tchadiens continuent d'attendre les résultats provisoires de la présidentielle du 10 avril qui mettait aux prises le président Idriss Déby Itno et 12 adversaires. L'opposition persiste à dire que le scrutin a été émaillé de nombreuses irrégularités. C'est le cas pour le Parti pour la liberté et le développement, le PLD. Écoutons son candidat à la présidentielle, Mahamat Ahmad Al-Habo.
Le code électoral explique que les listes électorales doivent être affichées 3 jours à l'avance. Ils n'ont pas voulu respecter cette disposition. Ils ont affiché ça le jour du vote. Beaucoup de gens n'étaient pas capables de trouver où se trouvait leur bureau de vote pour voter. Plus grave, la CENI a refusé de façon délibérée d'envoyer des procès-verbaux de vote dans beaucoup de villages, dans beaucoup de bureaux de vote. Autre chose, plus grave, que nous avons constaté le premier jour du vote, c'est-à-dire le 9, les militaires ont voté de façon non transparente, non libre, parce que les officiers étaient là et imprimaient l'ordre aux votants de prendre tel ou tel candidat. Quelques téméraires ont refusé de tempérer. Ils ont été battus, molestés et arrêtés. Nous avons aussi constaté beaucoup d'ingérences, n'est-ce pas, des autorités administratives, des militaires, des autorités traditionnelles, le chef de canton, le chef de village, le chef de carré, les délégués. Et tout ce monde-là s'est ingéré de façon ostentatoire pendant le processus du vote.
Mahamat Ahmad Al-Habo, candidat du Parti pour les libertés et le développement à la présidentielle tchadienne du 10 avril. Au Congo-Brazzaville, un collectif d'ONG baptisé « Tournons la page » a exigé hier la fin des violences dans le pays et l'instauration d'un dialogue pour sortir de la crise post-électorale née, selon cette coalition, de la victoire contestée du chef de l'État Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 20 mars. Les précisions de John Lyndon.
Dans un communiqué, la coalition Tournons la page exige l'arrêt immédiat des opérations militaires en cours dans le département du Poule, de même que le retour des soldats déployés sur le territoire dans leurs casernes et bien sûr l'ouverture d'un dialogue franc et sincère entre les acteurs politiques pour solder le contentieux sans faire appel aux armes. Le gouvernement a accusé le pasteur Ntoumi, ancien rebelle originaire du Pôle, d'avoir commandité une attaque terroriste contre plusieurs bâtiments publics. Refutant cette version, certains opposants accusent le pouvoir d'avoir commis un montage pour étouffer toute velléité de contestation des résultats officiels. M. Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans de pouvoir au Congo, a obtenu un changement de constitution validé par un référendum qualifié de coup d'État par ses détracteurs. Il a ensuite fait avancer au 20 mars la présidentielle prévue en juillet. Le 4 avril, la Cour constitutionnelle a validé les résultats officiels, donnant le chef de l'État sortant vainqueur dès le premier tour, avec plus de 60 % des voix, ce que 5 des candidats d'opposition unis par un pacte anti-Sassou ont qualifié de forfaiture.
VOA Afrique en direct de Washington.
Congo-Kinshasa, la fièvre jaune qui frappe l'Angola depuis décembre 2015 a gagné la RDC voisine. Une vingtaine de cas sont déjà confirmés tant par l'OMS que par les autorités congolaises démocratiques. Des détails avec Nani Talani.
Pour le docteur Benoît Kebela Ilunga, directeur chargé de la lutte contre les maladies épidémiologiques au ministère de la Santé à Kinshasa, toutes les personnes atteintes sont des Congolais malades venus d'Angola et qui sont rentrés au pays pour se faire soigner. Il n'y a aucun cas autochtone. Aucune personne n'a encore contracté la maladie sur le territoire congolais. Pour contenir l'épidémie, les autorités congolaises ont renforcé la surveillance à la frontière avec l'Angola et à l'intérieur du pays. Les services de santé ont aussi entrepris une campagne de sensibilisation pour encourager les populations à éviter la prolifération des moustiques, vecteurs de la fièvre jaune, et à utiliser des moustiquaires imprégnés. Malgré toutes ces précautions, le risque de voir l'épidémie de la fièvre jaune se développer n'est pas totalement exclu.
Actualité hors d'Afrique maintenant, le 40e rapport annuel du département d'État américain sur les droits humains dénonce une crise mondiale de la gouvernance qui se traduit par une multiplication des attaques contre les libertés fondamentales et les valeurs démocratiques. Les détails avec Timothée Donormaille.
Le rapport accuse des régimes autoritaires à travers le monde de réprimer leur peuple avec une vigueur et une méchanceté croissante. Le secrétaire d'État John Kerry note dans le préambule une tendance croissante de la part à la fois d'acteurs étatiques ou non de contraindre l'espace de la société civile, d'étouffer la liberté des médias et d'Internet, de marginaliser les voix d'opposition et, dans les cas les plus extrêmes, de tuer des gens ou de les forcer à quitter leur foyer. Le document du département d'État épingle en particulier des pays comme la Russie et la Chine, tout comme la Corée du Nord, l'Iran, le Soudan, mais il n'épargne pas les alliés des États-Unis comme la Turquie ou l'Égypte. Compilé par des diplomates américains, le rapport n'a aucune implication légale pour la politique étrangère américaine. Cependant, selon John Kerry, il renforcera la détermination des États-Unis à promouvoir les libertés fondamentales et à soutenir les groupes que Washington considère comme des défenseurs des droits de l'homme.
Campagne des primaires présidentielles ici aux États-Unis, les candidats démocrates Hillary Clinton et Bernie Sanders s'affronteront aujourd'hui à Brooklyn, dans la ville de New York, dans un débat télévisé sur la chaîne CNN très attendu à l'approche de la primaire cruciale dans l'État de New York mardi prochain. Et puis en France, le président François Hollande sera ce soir à la télévision française pour un nouvel exercice médiatique, incluant une séance de questions-réponses avec des Français. L'objectif du chef de l'État, dont la cote de popularité est inférieure à 20%, tenter de convaincre une opinion publique méfiante du bien fondé de la politique qu'il mène depuis 4 ans. Une opération de reconquête en vue de l'élection présidentielle de 2017. Un nouveau Premier ministre pour l'Ukraine, son nom Volodymyr Groysman, un allié du président Petro Poroshenko qui vient d'être nommé. Et pour terminer du sport, l'ancien international ivoirien Didier Drogba a annoncé aujourd'hui son intention de poursuivre en justice le Daily Mail pour un article dans lequel le tabloïd anglais accuse sa fondation de n'avoir utilisé pour la bonne cause qu'une infime minorité des dons récoltés en Grande-Bretagne. Le tabloïd affirme que seuls 17 700 euros des plus de 2 100 000 euros récoltés par la fondation Didier Drogba en Grande-Bretagne sont finalement arrivés en Afrique. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.